Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde. Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans les carnets du monde. Embarquement immédiat pour aller écouter ensemble comment va la vie ailleurs. Ailleurs, en Grande-Bretagne par exemple, 6 semaines seulement nous séparent du divorce entre Londres et l'Europe et toujours pas d'accord, donc beaucoup d'incertitudes, surtout pour ceux qu'on pourrait appeler les étrangers du Brexit. Les Européens qui vivent au Royaume-Uni et qui doivent dès maintenant s'enregistrer pour avoir un statut de résident. Et puis les Britanniques de France qui ne savent plus trop où ils habitent, qui ils sont.
On peut avoir la colère parce qu'on n'a pas eu le droit de s'exprimer. On se sent en fait comme si on n'existe nulle part au niveau de la droit de vote. On vit ici, mais notre droit de s'exprimer sur l'état de la lieu, on n'en a plus. Et donc on nous dit « mais je suis quoi ?»
Je vous emmènerai ensuite en Inde, 5 mois après la décision historique de la Cour suprême de dépénaliser l'homosexualité. On va rencontrer ceux qui s'efforcent d'inclure les personnes LGBT dans les entreprises, de développer ce qu'ils appellent la « pink economy », l'économie rose, 26 milliards de dollars par an, selon la Banque mondiale.
Tellement de diplômés sont partis aux États-Unis, au Royaume-Uni ou ailleurs. Le coût économique de cette fuite de cerveau est énorme. Mais à présent, je vois déjà des jeunes issus des meilleures écoles indiennes choisir de rester.
Malgré tout, vous l'entendrez, le tabou social est toujours très ancré en Inde. Nous irons aussi en Russie, où une loi a été votée fin décembre à Moscou pour enfin protéger les animaux. Son application est assez large et c'est une victoire pour les défenseurs des animaux. À l'heure où c'est la mode d'avoir un puma dans son appartement, où l'on n'hésite pas à tuer les chiens errants. Dernier maître jusqu'au cimetière, c'est le très bon titre du roman finlandais dont Nicolas Caro viendra nous parler, entre polar et comédie. Enfin, Joseph fermera le bal, comme d'habitude, avec une réflexion bien à lui, sur notre rapport au travail, nos rythmes de travail. Les carnets du monde sont ouverts. Destination Londres. Dans une quarantaine de jours, le 29 mars, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne. Selon quel accord, à quelles conditions? Mystère pour l'instant, puisque l'accord négocié entre Londres et Bruxelles a été rejeté par le Parlement britannique. Une incertitude qui attise l'inquiétude de certains, évidemment, et notamment les 3,5 millions d'Européens installés là-bas, en Grande-Bretagne. Car avec le Brexit, leur statut migratoire va changer. Jusqu'ici, un simple passeport leur donnait le droit de vivre et de travailler dans le pays. Mais à partir du 1er avril, ils auront l'obligation de postuler à un nouveau statut de résidence. Et ça, ça passe mal. À Londres, on retrouve notre correspondante Anaïs Cordoba. Bonjour Anaïs.
Bonjour Sophie.
Depuis le 21 janvier, le ministère de l'Intérieur a lancé une phase de test pour ces démarches. Et près de 30 000 Européens ont déjà postulé à ce statut. Concrètement, Anaïs, comment ça marche ?
C'est une démarche en ligne. Il faut d'abord prouver votre identité en scannant votre passeport, puis vous devez renseigner votre adresse. Le système vérifie votre situation fiscale. Mmh. Enfin, il faut déclarer si vous avez un casier judiciaire. Si vous êtes résident depuis moins de 5 ans, vous obtenez un statut provisoire. Mmh. Pour obtenir le statut permanent, il faut vivre depuis au moins 5 ans dans le pays.
Dans la phase de test, 81% des demandes ont été traitées très rapidement, en moins d'une semaine. 10% sont toujours en attente d'une réponse. Est-ce que cette demande peut être refusée, Anaïs ?
Alors en théorie, oui. Si vous n'avez pas de papier pour justifier d'au moins 6 mois de vie dans le pays ou si vous avez eu une lourde condamnation. Mmh. Mais sans évoquer des cas de figure extrêmes, on voit bien ici que certains citoyens européens sont furieux. Ils ont l'impression qu'on leur retire des droits a posteriori. Mmh. Écoutez Véronique, une Française installée en Grande-Bretagne depuis longtemps. Pour elle, c'est douloureux et elle refuse jusqu'ici de postuler.
Après 32 ans de vie ici, après un mariage avec un mari britannique depuis 28 ans, ça me brise le cœur de devoir faire une demande pour avoir le droit de rester chez moi et de continuer à vivre ma vie, alors que j'ai eu ce droit depuis le départ. Moi, j'ai demandé quels étaient les papiers nécessaires pour m'installer en Grande-Bretagne en 87 et on m'a dit qu'il n'y en avait aucun, que j'étais chez moi. Et tout d'un coup, tout a changé. Rétrospectivement, je n'ai plus de droit, j'ai un sentiment de colère. On ne mérite tellement pas ce qui nous arrive. C'est une aberration.
Voilà, elle n'est pas contente, cette Française de Grande-Bretagne. Est-ce qu'on peut imaginer, Anaïs, que des personnes qui n'auraient pas postulé à ce nouveau statut soient finalement expulsées dans les mois qui viennent ?
pas dans les mois qui viennent, hein, puisque la date limite pour faire les démarches, c'est le 30 juin 2021. Mmh. Donc, il y a encore un tout petit peu de temps. Mais des groupes de défense des Européens montent au créneau dès maintenant pour soutenir des personnes qui n'arriveraient pas à postuler et qui risqueraient donc l'expulsion. Par exemple, des personnes maîtrisant mal l'anglais ou n'ayant aucune compétence informatique pour faire la démarche en ligne. J'ai rencontré, par exemple, les membres d'une association d'aide aux populations roms qui a justement participé à la phase de test. Eh bien, selon Mihai, le superviseur du projet, seulement 3% des participants roms ont réussi à postuler sans aucune aide. Et lors de ses réunions d'information, il s'est rendu compte que d'autres catégories d'Européens pourraient être victimes du système.
On a eu une dame, une Française, qui vit ici depuis 43 ans, mariée à un Britannique. Elle ne croyait pas que ça pouvait s'appliquer à elle. Quand on lui a parlé du statut de résident, elle a dit « Mais non, ça ne s'applique pas à moi, je vis dans ce pays depuis tellement longtemps, je n'ai pas à faire ça, j'ai des droits ». Beaucoup d'autres associations comme la nôtre s'inquiètent de la manière dont ce système fonctionne. Et aussi parce qu'il y a une date limite, on craint que de nombreuses personnes se retrouvent sur le carreau.
Ce qui les inquiète clairement, ce sont les personnes âgées, illettrées ou socialement isolées. Selon des études, ici, on estime qu'environ 10% des citoyens européens du pays sont considérés comme vulnérables. Et bien, ça représente près de 400 000 personnes.
Et alors, que propose le gouvernement pour gérer cette situation ?
Alors, des centres d'aide seront mis en place. Le gouvernement britannique se repose aussi beaucoup sur les associations d'aide aux Européens. Il va les financer à hauteur de 10 millions d'euros, mais les associations estiment déjà que cette somme n'est pas suffisante et que les centres d'aide ne seront pas assez nombreux. Cette semaine, elles ont fait témoigner devant des députés des gens qui ont testé le système, justement, et ça n'a pas encore l'air tout à fait au point. Écoutez l'exemple de cette citoyenne bulgare qui prend le micro dans la salle du Parlement.
Le système n'acceptait pas mon adresse mail. Ça disait que ce n'était pas une adresse email valide. Donc j'ai appelé le centre d'aide. Et ils m'ont conseillé de donner l'adresse mail de quelqu'un d'autre. Puis, quand j'ai obtenu le statut et que j'ai voulu vérifier que tout allait bien, j'ai eu la surprise de voir que mon nom avait été rédigé en alphabet cyrillique. Mais les Anglais ne savent pas lire le cyrillique.
On entend des rires dans la salle, hein, mais je peux vous dire que l'ambiance était électrique. Écoutez ces protestations quand le député conservateur Alberto Costa, très favorable à la cause des Européens, a tenté d'apaiser l'assistance.
Écoutez, si le système ne fonctionne pas, des mesures légales seront prises et le gouvernement sera contraint de changer ce procédé. En 2021, il y aura, c'est sûr, des dizaines de milliers de personnes qui ne seront pas enregistrées pour obtenir le statut de résident. Mais je vous assure, il n'y aura pas d'expulsion. Personne ne sera expulsé de ce pays.
Les citoyens européens en Grande-Bretagne ne font pas du tout confiance au ministère de l'Intérieur britannique et réclament un changement de système. Concrètement, ils voudraient que leur nouveau statut ne passe pas par le filtre du ministère, mais qu'il suffise d'une simple déclaration, par exemple qu'on puisse aller dans sa mairie et montrer simplement un document d'identité et une preuve de résidence pour s'enregistrer.
Ouais, en tout cas, le ministre de l'Intérieur français, Christophe Castaner, qui était à Londres il y a 3 semaines, a dit qu'il n'avait aucune inquiétude sur le sort des citoyens français en Grande-Bretagne. Quant à ceux qui arriveront après le Brexit, ils seront soumis à une nouvelle politique migratoire dont les contours seront précisés cet automne dans un projet de loi. Merci beaucoup Anaïs pour ces explications.
Merci Sophie.
Europe 1, les carnets du monde.
13h09, on continue à parler du Brexit, Sophie Larmoyer.
Et on repasse la Manche dans l'autre sens pour s'intéresser cette fois aux Britanniques expatriés en Europe. En particulier à ceux qui vivent chez nous en France, parfois depuis très longtemps aussi. Ils sont environ 200 000 selon les estimations consulaires. Et quand le Brexit entrera en vigueur, ces Britanniques vont perdre leur statut de citoyens de l'Union européenne. Le gouvernement français a mis en place un plan pour pouvoir prendre des mesures dans l'urgence le cas échéant. En cas de sortie brutale du Royaume-Uni, si aucun accord n'était finalement trouvé, le texte prévoit que rien ne change pour les citoyens britanniques pendant un an. Le temps pour eux de régulariser leur situation. Pour nous rendre compte de l'état d'esprit de nos amis britanniques en France, j'ai fait venir deux d'entre eux cette semaine à Europe 1, Jennifer Wright et Paul Stamper. Ils sont collègues de travail, tous deux designers chez le constructeur automobile Renault, et tous deux arrivés en France en 1998. Et je leur ai d'abord demandé quelles questions s'étaient imposées à eux, qui vivent en France depuis plus de 20 ans, quand leurs compatriotes ont voté en faveur du Brexit en juin 2016. Écoutez leur témoignage, Jennifer Wright et Paul Stamper.
La question qui me posait tout d'un coup, mais c'est qui suis-je par rapport à ça? J'ai toujours vécu en France avec beaucoup de simplicité. C'était simple et naturel. Je me sens européen. Du coup, je suis juste la plus européenne. Je suis britannique, mais quel est mon statut? Quel est mon droit de travail? Qu'est-ce qui se passe dans le futur si ça devient encore plus compliqué? Et qu'est-ce que je dois faire parce que, par rapport à mon employeur?
Un vide,
espèce de tristesse et un vide parce que je ne sais plus où je suis, parce que je ne suis plus presque britannique, tout en étant très britannique. Je ne suis pas français et je me sens européen, mais ça n'existe plus pour moi.
Mm-hmm. Et vous, Paul, qu'est-ce que vous dites à ce moment-là?
Pareil comme Jenny, en fait. Je sentais un peu vide. Je ne sais pas à quels endroits je vais mettre mes pieds, mais pour moi, j'habite ici, ma vie c'est ici, je travaille, ma vie c'est en France, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est flou pour moi.
Ce sont des questions aussi tout simplement de droit social qui se posent aussi
Oui, parce que par exemple, la sécurité sociale, la santé et maladie, pour moi, depuis le début, c'était simple. J'ai ma carte vitale et il y a une réciprocité. Mm-hmm. Mais quel est mon statut? Est-ce que j'ai des démarches à faire? Est-ce que je suis protégée? Mm-hmm. Est-ce que, par exemple, mon employeur, je dois de nouveau mettre en situation? Est-ce que j'ai le droit de continuer? Mm-hmm. Quelle est ma place? Et pour la retraite aussi?
Est-ce que ça peut poser
des choses? Oui, exactement, parce que je ne suis plus une Européenne. Je suis égale à n'importe quel citoyen du monde. Je peux être un Indien ou un Chinois. Et je suis, j'ai pas la même situation.
Beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses à ce moment-là.
Mais oui, parce que je sentais vraiment une frustration. Parce qu'en fait, la partie administrative, c'est pas clair pour nous pour le moment. Mais aussi la partie de vote, parce qu'on n'a pas le droit de voter en Angleterre.
Alors ça, il faut qu'on l'explique. Hein. Quand on est hors de Grande-Bretagne depuis plus de 15 ans, au moins 15 ans, on n'a plus le droit de vote.
Tout à fait.
Alors que vous avez pendant 15 ans voté par correspondance en Grande-Bretagne. Oui. Vous n'avez plus le droit de voter là-bas.
Non, en France,
vous ne votez que pour les européennes et les municipales.
Tout à fait.
Donc il y a une question de citoyenneté, quoi, de civisme.
Oui. On se sent en fait comme si on n'existe nulle part au niveau de la droit de vote. On vit ici, mais notre droit de s'exprimer sur l'état de la lieu, on n'en a plus. Et donc on nous dit, mais je suis quoi? Et j'ai un concern pour la politique, mais à quoi je peux m'exprimer?
Et par exemple, vous n'avez pas pu voter pour ou contre le Brexit?
Non, pas du tout. Oui. Alors en fait, oui. Ça c'est le plus gros contrat parce que, évidemment, c'est affecté à nous. Personnellement, aussi, il y a beaucoup d'Anglais en France dans la même situation.
Mm-hmm. D'ailleurs, ça c'est, je trouve, très énervant. D'ailleurs, on peut avoir la colère parce qu'on n'a pas eu le droit de s'exprimer et en même temps, on nous informe, on est dans un flou et on n'est pas concerné et on ne peut pas s'exprimer. Mmh. C'est la sensation de fait muet. Je suis là, mais...
Bâillonné. Un peu comme si vous n'étiez plus trop britannique pour ça.
Tout à fait. Comme si on est plus britannique tout en étant... Je me sens britannique.
Oui, c'est ça. Vous avez tous les deux fait une demande de naturalisation tout récemment, je crois, à la fin de l'année dernière. Vous le faites à cause du Brexit. Est-ce que c'était une décision difficile à prendre?
Pas difficile pour moi, parce que je suis... Ma vie, c'est ici. Je suis content.
Ici.
Oui, je suis fier de bien, j'espère, penser. Mais il a un petit peu de nostalgie parce que j'ai mes amis, ma famille en Angleterre. Heureusement, je n'ai perdu pas ma nationalité anglaise. Je conserve ça aussi.
Les lois permettent de garder les billets.
Pour le moment. J'espère continuer.
Vous m'avez dit en préparant l'émission, ce qui est étrange, c'est que c'est comme si d'autres personnes avaient décidé pour moi.
Tout à fait, oui. En fait, quand je n'avais pas de vote, je n'avais pas de droit d'exprimer mon opinion, c'est décidé pour moi.
Mm-hmm. Jenny?
Pour moi, c'est un peu le même, mais pas complètement, parce que je n'aurais jamais pensé demander une autre nationalité avant. Pour moi, je suis britannique, je suis née en Grande-Bretagne, mais je suis citoyenne du monde. Pourquoi dois-je changer de nationalité? Et quand j'ai eu le Brexit, évidemment, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Mais pendant un moment, j'étais dans le déni, je ne voulais pas le faire, parce que ce n'est pas pour les bonnes raisons. Mm. Ce n'est pas parce que je suis français, je sens français, je suis fière d'être français, ce n'est pas ça. C'est que c'est plutôt, à un moment donné, ça devient un choix rationnel, pragmatique, peut-être...
Un choix de raison. Quoi.
Oui, un choix de raison. Et pour moi, ça, j'avais une tension interne entre le choix de ressenti et la raison.
Il y a un peu plus de 5 ans, vous avez eu un petit garçon.
Oui.
Avec un compagnon français. Et vous vous êtes aperçu, par exemple, qu'un livret de famille, c'est compliqué quand on est britannique et pas française.
Oui, j'étais assez choquée même parce que moi, j'étais en congé parental et le livret de famille était mis. Donc, on avait rendez-vous pour le récupérer. Je vais à mon mari et on refuse de me le donner, même avec évidemment mon passeport, parce que je n'ai pas d'état civil. Je ne suis pas reconnue. Donc, mon mari devait prendre une demi-journée pour aller le chercher et je sens comme si je n'existe pas. Sur la page de la livre de famille, il y a le père et il n'y a rien dans la place du maire en première page.
Ça veut dire que c'est un petit peu une inquiétude sur l'avenir qui vous pousse aussi à faire cette démarche
aujourd'hui.
C'est
tout à fait, c'est par rapport à mon fils, c'est la sensation d'être là et pouvoir être responsable parce que si je ne suis pas française, à un moment donné, peut-être ça pose le problème. Mm-hmm. C'est ça.
Comment le vivent vos familles qui sont en Grande-Bretagne?
En fait, j'ai une soeur qui est très frustrée. Parce qu'elle ne sait pas non plus comment ça change les choses. Mais toute ma famille, c'était contre le Brexit. On ne comprend pas non plus.
Et de vous voir de faire la démarche de devenir français aujourd'hui.
Oui, c'est un peu bizarre pour eux. Elle exprime fortement sur le sujet qu'elle a dit, mais évidemment, ta vie, c'est en France. Vous avez vécu 20 ans ici, travaillé dans une relation amoureuse, avec Paxi aussi. Pour elle, c'est un peu naturel, je fais ça parce que ma vie, c'est là. Ouais. Mais pour elle, comme moi, c'est la fierté d'être britannique.
Ouais. Jenny.
Pour moi, je dois dire, je n'ai pas trop discuté avec eux. Ma maman, elle est un peu comme moi, elle comprend, c'est un choix raisonné. Mon papa a voté contre le Brexit, il voulait sortir. On n'a jamais vraiment discuté pour moi parce que...
Il a voté pour le Brexit.
Oui,
alors,
il a voté pour le Brexit. Maman a voté contre. Elle m'a dit, j'essaie d'égaliser ton père, neutraliser. Mais du coup, je ne discute pas avec lui parce que quelque part, même ça peut être des sujets de désaccord. Et donc, c'est un peu...
Le vote de votre papa fait que vous demandez la nationalité française aujourd'hui.
Bah, quelque part, oui.
Et c'est difficile en famille,
pour
ça,
moi,
du coup.
Bah, je ne discute pas parce que je n'ai pas envie de créer une situation de tension. Mais quand le Brexit est passé, mon père l'avait un peu choqué. Genre, mais je n'imaginais pas que ça se passerait comme ça. Et je ne savais pas quoi lui répondre. Et donc, la question de la nationalité, je ne l'ai même pas demandé qu'est-ce qu'il en pense. Et parce que je préfère éviter.
Ça divise quand même encore pas mal beaucoup de familles britanniques, cette question du Brexit.
C'est sûr, parce que j'ai beaucoup d'amis, ou même ma sœur, qui ont des beaux-parents, les personnes âgées, ou les parents qui ont voté pour sortir de l'Europe, autant que les enfants un peu de mon âge, donc 40-50 ans, sont souvent veulent rester. Ouais. Et donc, beaucoup d'amis ou personnes ont des problèmes avec les parents parce qu'ils sont en désaccord. Et ça, c'est difficile aussi.
Bon, en tout cas, vous serez peut-être bientôt français... bientôt compatriote, et en tout cas vous garderez aussi votre nationalité britannique, et c'est tant mieux parce que de toute façon avec ces très jolis accents, vous ne pouvez pas renier vos origines. Voilà. Merci Paul, et merci Jennifer.
Merci Sophie.
Merci.
Jennifer Wright et Paul Stamper, deux designers en France depuis plus de 20 ans, la France où ils ont fait leur vie. Les demandes de naturalisation sont en hausse très nette dans plusieurs pays d'Europe et ici en France, mais encore plus en Allemagne.
Europe 1, les carnets du monde.
13h19, c'est l'heure du bon conseil lecture de Nicolas Carreau, Sophie Larmoyer.
On voyage aussi grâce à la littérature étrangère. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Et cette semaine, c'est en Finlande que nous emmène le roman que vous avez choisi.
Oui, il s'appelle « Dernier maître jusqu'au cimetière » chez Fleuve Édition, signé Antti Tuomainen. Il nous raconte l'histoire de Jaakko Mikael Konisma, 37 ans, le héros. Et c'est pas son jour à Jaakko, vraiment pas son jour. Ça commence chez le médecin, il vient faire un bilan puisqu'il a fait des examens, ça n'allait pas fort. Vertige, fatigue intense, stress démesuré. Il pensait que c'était une grippe qui s'éternisait, mais non. Et le médecin n'y va pas par quatre chemins. Il lui annonce qu'il a été empoisonné.
Waouh ! Et donc, il va le soigner, lui donner un antidote.
Ben, il aimerait bien, mais c'est trop tard. Tous les organes vitaux sont touchés. Il annonce à Jaakko qu'il va mourir, qu'il n'en a plus que pour quelques jours, quelques semaines au mieux. Bon, Jaakko encaisse le choc. Enfin, pour l'instant, il est dans un état de sidération. Il ne réalise pas bien. Il devait retourner travailler, mais il décide de rentrer chez lui. On peut comprendre. Il faut maintenant qu'il l'annonce à sa femme. Bah, tiens, justement, sa voiture, la voiture de sa femme est devant l'entrée. Et il y a une autre voiture, tiens. Il entre et là, il surprend sa femme en plein ébat avec un homme. C'est Petri, l'un des employés de l'entreprise de Jaakko.
Effectivement, c'est vraiment pas son jour.
Je vous avais prévenu. Ouais. Cela dit, Jaakko décide quand même de ne pas se laisser aller. Il veut savoir au moins qui est en train de l'assassiner.
Il a des pistes ?
Alors, bon, il ne l'aurait jamais imaginé, mais bon, Sa femme, quand même, les amants ont-ils voulu faire disparaître le mari gênant? Ça s'est vu. Mais bon, il y a quand même d'autres idées. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais Jaco habitait Helsinki avant. Sa femme était cuisinière en collectivité et lui, chef des ventes. Mais avec la crise, ils ont perdu leur job et ils sont partis à Hamina, une petite ville. Ils y ont fondé une entreprise spécialisée dans la culture du matsutake, un champignon très très rare qui pousse en Finlande et dont les Japonais raffolent. Ils payent jusqu'à 1000 euros le kilo.
C'est un peu la
justement,
truffe.
Voilà. L'entreprise de Jaco a depuis peu un nouveau concurrent qui s'est installé à côté. Tiens, tiens.
Mais dites-moi Nicolas, il n'était pas censé être à l'article de la mort. Jaco, il arrive à enquêter quand même?
Pour l'instant, ça va. Et puis, c'est aussi un roman sur l'urgence de vivre. Cette perspective de la mort, paradoxalement, lui donne une folle envie de vivre. En fait, il n'a jamais vécu aussi intensément. C'est un roman très étrange, assez génial, obscur et drôle.
Et l'auteur, vous nous en dites un mot?
Antti Tuomainen, donc. On ne le connaît pas du tout en France, faut être honnête. Mais en Finlande, c'est une star des lettres, comme me l'a appris son éditeur français Florian Lafani, le directeur éditorial de Fleuve Édition.
C'est un écrivain qui s'est fait connaître principalement par le thriller et c'est un écrivain qui en Finlande connaît un très grand succès à la fois public et critique aussi. Il a remporté un certain nombre de prix pour ses romans. Et c'est son quatrième roman qu'on publie et qui est un roman qui se distingue un tout petit peu de ses productions précédentes puisque nous d'ailleurs on l'a positionné un petit peu en littérature générale parce que c'est un roman qui flirte un peu entre les deux genres, entre le polar et la littérature générale.
Et alors vous en pensez quoi, vous, polar ou comédie?
Eh ben les deux.
C'est un roman assez hybride parce que on pourrait résumer ce livre dans une intrigue un peu de polar. Et en même temps, c'est aussi un roman très décalé, effectivement très drôle, avec ce personnage principal de Jaco qu'on suit effectivement avec beaucoup de bonheur et on sourit effectivement parfois dans des situations qui ne le méritent pas, mais parce que c'est, et je pense que là c'est vraiment tout le talent de l'écriture très singulière d'Antti Tuomainen, c'est d'arriver à être tout le temps un petit peu sur la brèche de ces deux genres de polar et littérature générale, et ça donne un ouvrage à la fois assez hybride, assez unique aussi. Et une histoire qui est vraiment traitée effectivement de manière décalée et drôle. Voilà, il y a des échos un peu de Pasilina aussi dedans, parce que parfois ce côté drôle touche un peu à l'absurde.
Pasilina, on en avait déjà parlé ici.
Bah oui, deux, trois fois au moins, vous souvenez, Petit suicide entre amis, notamment l'histoire de gens qui décident de se suicider ensemble pour le côté pratique et obtenir des promos sur les frais. Et bah, c'est le même genre d'humour noir et glacial scandinave.
Dernier maître jusqu'au cimetière, donc, chez Fleuve, signé Antti Tuomainen. Traduction.
Traduction du finnois par Alexandre André.
Merci beaucoup, Nicolas.
Mais je vous en prie. Europe
1. Et c'est en Inde qu'on file maintenant, l'Inde qui a dépénalisé l'homosexualité il y a quelques mois. Et c'est un nouveau pan de l'économie qui commence à se développer dans le tourisme et au cœur des entreprises, la Pink Economy, économie rose. A tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
Et c'est jusqu'à 14h avec vous Sophie Larmoyer. Nous voilà en Inde et dans cette partie du monde, être homosexuel n'est plus un crime depuis quelques mois.
Sous les couleurs arc-en-ciel à Bombay, il y a 15 jours, a eu lieu la première marche des fiertés légale. Car en septembre dernier, la Cour suprême indienne a décriminalisé l'homosexualité. Une décision historique d'abroger enfin un article du code pénal qui datait de l'époque coloniale britannique. Mais dans ce pays très conservateur qu'est l'Inde, une poignée d'irréductibles chefs d'entreprise, souvent eux-mêmes homosexuels, n'ont pas attendu cette décision pour tenter d'intégrer la communauté LGBT dans le monde du travail. Désormais, d'autres pourraient les imiter. D'autant que la Banque mondiale a chiffré le manque à gagner, l'économie indienne perdrait jusqu'à 26 milliards de dollars par an par rapport à ce qu'elle pourrait générer grâce aux consommateurs ou à des employés LGBT. Dans les carnets aujourd'hui, on part à la rencontre de ceux qui participent à l'émergence d'une économie rose. Première étape de ce voyage, la capitale, New Delhi, c'est un reportage de Margot Ben.
Bienvenue à Kittisu, la boîte de nuit LGBT de chacun des grands hôtels Lalit. Cette franchise indienne de Palace 5 étoiles est l'une des premières entreprises du pays à s'être battue pour l'inclusion des minorités sexuelles dans le monde du travail. Sur les murs de la boîte de nuit, au sous-sol du Lalit de Delhi, la devise est affichée sous forme de hashtag fluorescent. I'm a freak. Je suis anormale.
I'm proud of who I am.
Une drag queen monte sur scène pour entamer son spectacle.
This is the first place,
C'est à Kittisu qu'est née la culture drag en Inde.
Ici, vous pouvez être vous-même, vous pouvez vous habiller comme bon vous semble, vous serez bienvenue parmi nous.
Elle, c'est Chiara. Cette transsexuelle de 31 ans est responsable de communication des hôtels Lalit. Elle a quitté son emploi dans une grande multinationale. Elle n'y subissait pas de harcèlement, mais se sentait incapable de s'y épanouir.
On mettait en cause mes capacités, surtout à cause de mon genre. Aujourd'hui, je suis fière de m'asseoir à la même table que les directeurs, de m'exprimer devant eux, me présenter et d'exposer mes points de vue. Lorsque vous venez au travail et que vous vous y sentez aimé et bienvenue, vous donnez 100% de vous-même. Et quand vous aimez votre travail et que vous vous donnez à 100%, personne ne peut vous arrêter. Alors bien sûr, cela vous rend plus efficace et un bien meilleur employé.
Nous montons les escaliers de l'hôtel jusqu'au bureau de Keshav Souri, directeur des hôtels Lalit. Ouvertement homosexuel, c'est à lui seul que l'entreprise doit cette politique d'inclusion. Keshav Souri était aussi parmi les principales personnalités à militer contre l'article 377 de la Constitution indienne qui criminalisait l'homosexualité. Cet article, qui datait de l'ère coloniale britannique, a finalement été abrogé en septembre dernier.
Je suis fier de dire que j'ai travaillé avec plus d'une centaine d'employés homosexuels. J'ai formé plus de 35 transsexuels et 10 d'entre eux travaillent actuellement pour moi. Beaucoup de membres de mon équipe ont désormais fait leur coming out. Nous assurons une couverture maladie aux couples homosexuels et nous couvrons aussi les coûts de changement de sexe.
Direction l'hôtel Lalit de Bombay, la capitale économique de l'Inde. C'est là que nous avons rendez-vous avec Nakshatra Bagwe, le fondateur de Backpack Travels. C'est la seule agence de voyage du pays destinée à la communauté LGBT, créée par un homosexuel pour les homosexuels. Acteur primé et influenceur sur les réseaux sociaux, sa petite notoriété lui a permis de financer dès 2016 ce projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps.
Bombay est la ville la plus gay-friendly de l'Inde. En tant qu'homosexuel, nous pouvons voyager avec nos amis, avec nos familles. Nous organisons ce genre de vacances, certains me surnomment la mère supérieure, et les gens adhèrent. Ils viennent de loin pour explorer Bombay deux jours. C'est vraiment très encourageant que les gens veuillent venir. Ils veulent découvrir ce style de vie.
Un peu plus loin, dans un quartier cossu de Bombay, nous avons rendez-vous au siège de Godrej, l'une des plus grandes entreprises indiennes. Le site est immense, moderne et ressemble à une petite Silicon Valley à l'indienne. C'est là que nous reçoit le flamboyant Parmesh Shahani, chaussures bleues électriques et cravate peinte à la main. Il est l'un des principaux cadres du groupe et son objectif, c'est de révolutionner l'inclusion des personnes LGBT dans le monde de l'entreprise en Inde. Et il s'est trouvé les arguments qui font mouche.
200 milliards de dollars, voilà ce que représente le marché LGBT en Inde. Alors quand je vais évangéliser sur l'intérêt d'être inclusif dans les entreprises, même si je ne suis qu'avec des bigots, je m'en fiche. Soyez intolérants, si ça vous chante. Vous voulez une part de ces 200 milliards de dollars ou pas? Eh bien je vais vous dire comment faire.
Autre argument de Parmesh Shahani, la fuite des cerveaux qui pénalise l'Inde. Car beaucoup de personnes homosexuelles choisissent de s'expatrier pour échapper aux discriminations.
Tellement de diplômés sont partis aux États-Unis, au Royaume-Uni ou ailleurs. Le coût économique de cette fuite de cerveau est énorme. Mais à présent, je vois déjà des jeunes issus des meilleures écoles indiennes choisir de rester. Certains refusent des belles places dans des universités étrangères parce qu'ils veulent travailler ici. D'autres reviennent. Et il y a beaucoup d'homosexuels dans des multinationales qui demandent leur mutation pour rentrer chez eux, en Inde, pour y monter des initiatives en faveur de la communauté LGBT. Et je pense que ça va encore s'accélérer avec la décriminalisation de l'homosexualité. Je suis assez enthousiaste sur l'avenir.
Et de l'enthousiasme, il en faudra encore pas mal. Une étude de 2015 montrait que seuls 2% des entreprises indiennes avaient des politiques d'inclusion des minorités sexuelles. La route est encore longue. À Delhi et Bombay, Margot Ben, Europe 1.
Retour en studio à Europe 1 à Paris et on est en ligne avec Margot Ben pour aller un peu plus loin. Bonjour Margot.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Alors 2% des entreprises indiennes qui ont des politiques d'inclusion, ça n'est pas beaucoup. Qu'est-ce que l'annulation de cet article dans le code pénal en septembre dernier a vraiment changé sur le terrain ?
Alors en fait, cet article criminalisait les relations sexuelles entre deux hommes, mais il n'y avait pas vraiment de condamnation. En revanche, symboliquement, l'abrogation de l'article 377 est un énorme pas en avant. C'est une victoire pour la communauté LGBT qui a réussi tout de même à mettre dans son camp la Cour suprême du pays. Il ne faut pas oublier que cette disposition du code pénal avait déjà été abrogée une première fois en 2009, mais que la Cour suprême l'avait réintroduite en 2013. Donc ça a vraiment été un travail de longue haleine.
Ouais, et concrètement, ça a fait bouger les lignes ces derniers mois ?
Immédiatement après la décision, pas mal d'entreprises ont pris le parti de se montrer ouvert à la diversité sexuelle. Mais le risque, c'est que tout retombe une fois l'emballement médiatique passé. Et c'est ce que craignent pas mal de militants LGBT que j'ai rencontrés, qui me disaient par exemple que pour l'instant, tout le monde fait des campagnes de pub flashy avec des petits arcs-en-ciel partout. Mais ils attendent de voir si cela débouchera sur de vrais efforts à long terme pour faciliter l'inclusion de la communauté dans le monde du travail et plus largement dans la société.
Ouais. Il s'agit de faire évoluer les mentalités au plus profond de la société indienne, et ça c'est plus long et c'est plus compliqué.
Oui, alors par exemple, il faudrait que cela s'accompagne de campagnes de sensibilisation, notamment dans les entreprises, pour éviter le harcèlement et les violences à l'encontre des personnes LGBT, qui sont un vrai problème en Inde. Une étude Times Jobs de 2018 montrait que plus d'une personne sur deux avait subi du harcèlement sur son lieu de travail en raison de son genre ou de son orientation sexuelle. Il ne faut pas oublier que la société indienne est d'une manière générale très conservatrice. Parmesh Sahanik, vous avez entendu dans le reportage le cadre de la grande entreprise Godrej, m'a raconté par exemple le cas d'un grand groupe indien à Kerala dans le sud, une compagnie qui avait recruté une vingtaine de personnes transgenres, mais sans leur fournir d'endroit où habiter. Or, personne n'a voulu leur louer de logement. Du coup, la plupart des employés sont repartis, pas parce qu'ils n'aimaient pas le travail, mais parce que tout simplement, ils ne pouvaient pas vivre là.
Ouais, l'homosexualité reste un tabou social très fort, quoi.
Absolument. Alors, comme souvent, les jeunes des milieux urbains sont beaucoup moins affectés. C'est surtout vrai à Bombay, qui est vraiment présentée comme la capitale rose de l'Inde, qui compte beaucoup de lieux ouverts à la diversité. Mais ailleurs, ce n'est pas du tout le cas. Dans le nord de l'Inde, y compris la capitale, Delhi, ainsi que les villages, l'homosexualité, les questions LGBT sont beaucoup plus tabous. Nakshatra Bagwe, le fondateur de Backpack Travels, qu'on a également entendu dans le reportage, a par exemple été rejeté par sa famille quand il a fait son coming out. Et dans la plupart des familles indiennes, il y a une grosse pression sur les jeunes pour qu'ils se marient, bien entendu avec une personne du sexe opposé. Donc, expliquer à ses parents qu'on ne veut pas se marier et qu'en plus on est gay ou lesbienne, c'est souvent considéré comme une honte, une insulte, quelque chose de complètement, de totalement impossible.
Ouais, bon, on espère que ça va évoluer. On comprend en tout cas que dans les faits, la route est encore longue. Merci beaucoup Margot pour ce coup de projecteur sur les pionniers de l'inclusion de la communauté homosexuelle en Inde. À une prochaine dans les carnets.
Au revoir.
Europe 1.
Dans un tout petit instant, je vous emmène en Russie. Là-bas, on avance aussi dans un tout autre domaine, la protection des animaux. Une loi a été votée tout récemment. Dans ce pays où, souvenez-vous, avant la Coupe du Monde de foot, les chiens errants étaient abattus par centaines. A tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
Et maintenant, Sophie Larmoyer, on prend la direction de la Russie pour saluer une nouvelle loi.
On vous en parlait il n'y a pas si longtemps dans les carnets. La Russie a tout récemment dépénalisé les violences domestiques, les violences contre les femmes. Et bien dans la foulée, les députés russes ont adopté une autre loi pour protéger cette fois non pas les femmes, mais les animaux. Au pays de Vladimir Poutine, on n'est plus à un paradoxe près. Cette nouvelle loi est bien sûr saluée et à juste titre par ceux qui défendent les animaux en Russie. Je vous propose d'écouter le reportage d'Elena Voloshine au zoo de Moscou et dans un refuge pour chiens abandonnés.
Au zoo de Moscou, par cette belle et glaciale journée d'hiver, je demande à ma guide de m'emmener voir les animaux exotiques.
Nous avons des lions, des éléphants, des hippopotames. Nous avons aussi des petits animaux que nous considérons comme exotiques, comme les opossums et des écureuils nains volants.
Yelena Lysogorskaya travaille ici depuis 19 ans. Elle venait déjà au zoo, toute petite. À l'époque, elle s'en souvient, le lieu était bien différent.
Avant, lorsque les zoos ne se préoccupaient pas du bien-être psychique des animaux, il y avait des cages. L'animal était exposé à la vue de tous et il n'avait nulle part où se cacher. Il allait d'un bout à l'autre de sa cage où il dormait, parfois pour amuser les visiteurs. On donnait de la viande aux prédateurs parce que les gens voulaient du spectacle. Aujourd'hui, la situation s'est améliorée. On cherche à distraire les animaux, on enrichit leur environnement, on s'est mis au dressage. Vous voyez, là par exemple. Là, l'otarie doit rapporter l'anneau. Elle ne va pas le faire avec les dents. Elle va mettre sa tête dedans. Voilà, comme ça, on saute. C'est bien.
Oh, mais ce sont des otaries.
Non, c'est un phoque.
Oui, c'est un phoque.
Mais oui, regarde, c'est écrit.
Un bassin et des dresseurs pour les otaries. Des volières aux allures de jungle pour les singes. Yelena m'explique que le bien-être psychologique des animaux est depuis quelques années une préoccupation permanente pour le zoo. Mais tout est aussi une question de budget.
Là, nous venons d'entrer dans le pavillon de l'Afrique. Ici vivent ensemble un zèbre, une girafe et une autruche. Cette volière a été construite selon les normes exigées par les standards modernes. Le plafond est haut et bien sûr, il fait chaud ici. La volière en plein air est plus grande, mais il est impossible de créer de grands espaces fermés pour l'hiver. On parle toujours de ce qu'il faudrait, mais il n'y a pas toujours de budget pour ça.
Selon la nouvelle loi, chaque zoo devra désormais obtenir une licence. Autre difficulté en vue, l'afflux d'animaux sauvages que les Russes n'ont plus le droit de garder à la maison.
Avant, la mode était aux voitures de luxe. Maintenant, hélas, elle est aux animaux exotiques. Mais qui lave un puma dans sa baignoire? Qui fait des câlins à un ours? Ici, au zoo, un collègue avait un ami qui voulait un puma. On m'a demandé de lui parler pour le raisonner. Je vous jure que j'ai tout fait pour l'en dissuader.
Interdit désormais d'avoir des animaux sauvages, tout comme d'abandonner son animal.
Initialement, ce refuge était prévu pour accueillir 400 ou 450 chiens. Aujourd'hui, nous en avons 600.
En périphérie de Moscou, j'ai retrouvé Maria, bénévole dans l'un des 13 refuges municipaux en surcharge. En randonnion, les cages des chiens sont disposées ici, à même la neige.
Ces aires de promenade ont été construites par les bénévoles. Ces baraques pour chiens vieux et malades aussi. Presque tout ici a été fait par les bénévoles. Ici, nous n'avons ni eau courante, ni électricité, ni canalisation. Une voiture nous amène l'eau. Et comme nous sommes dehors et que c'est l'hiver, elle gèle dans l'heure. Sur les 13 refuges municipaux de Moscou, un seul a légalisé son terrain. Les autres sont comme nous, illégaux et donc pas raccordés à quoi que ce soit.
Pourtant, pour ce qui est des refuges et du traitement des animaux abandonnés, la nouvelle loi pose des conditions très strictes. Je demande à Maria s'il n'y a pas là un décalage.
Il va de soi
qu'on est encore bien loin de pouvoir qualifier la situation en Russie de normale. C'est pourquoi une loi qui dicte des conditions normales de traitement des animaux est pour l'heure difficile à appliquer. Mais il faut bien tendre vers quelque chose et il doit y avoir un premier pas. Lorsque nous sommes arrivés ici en 2010, c'était une horreur. Il y avait des cages avec des niches en contreplaqué, des employés qui traînaient des chiens avec des lassos de capture. C'était effrayant à voir. 8 ans plus tard, nous sommes parvenus à quelque chose. Alors nous y parviendrons encore.
Comme Maria, ceux qui défendent les bêtes espèrent désormais que les mentalités évolueront. Une chose est sûre, la Russie part de loin. À Moscou, Elena Volochine, Europe 1.
Voilà, la Russie aurait donc encore du pain sur la planche pour faire appliquer la loi. Bonjour Elena.
Bonjour Sophie.
Vous êtes en ligne avec nous pour nous apporter quelques précisions. D'abord, que dit-elle cette loi? Elle concerne qui?
Alors elle concerne pas mal de monde, hein, puisqu'elle précise la façon dont doivent être traités les animaux domestiques, abandonnés de fonction ou sauvages en captivité. Mais elle exclut par exemple les animaux de laboratoire, d'industrie ou d'élevage. Mmh. Alors cette loi, elle dit des choses importantes, interdit de causer de la souffrance, de tuer ces animaux ou même de promouvoir une quelconque forme de violence envers eux. Pour ceux qui défendent les animaux en Russie, évidemment, c'est une victoire. J'ai interrogé l'un d'eux, il s'appelle Yuri Koretsky et il a été jusqu'à faire une grève de la faim devant le Parlement russe pour que les députés adoptent cette loi. Écoutez.
Notre plus grosse victoire, c'est que cette loi régule la sphère des animaux abandonnés. Désormais, ils seront traités avec humanité et ne seront plus assassinés. Une autre victoire pour nous est la fermeture des zoos, où l'on peut toucher les animaux, des cirques et des delphinariums ambulants. Nous trouvons aussi important le fait que cette loi prévoit la création d'un bureau d'inspecteurs civils, car les défenseurs des animaux pourront désormais eux-mêmes contrôler les conditions de traitement des animaux.
Alors, tout ça semble très bien, mais si on dit que la Russie part de loin, c'est aussi parce qu'il y a quelques mois à peine, il faut qu'on s'en souvienne, hein, on y abattait des milliers de chiens errants pour ne pas qu'ils gênent la Coupe du Monde de foot. Elena, il y a quand même un petit problème de mentalité, non ?
Tout à fait, et les avis sont partagés. Il y a ceux qui pensent que les autorités municipales ne renonceront pas aux bonnes vieilles méthodes pas chères d'abattage. Et puis ceux qui estiment qu'au contraire, la peur de Moscou les poussera à agir. Parce que là, le Kremlin a clairement fait comprendre qu'il souhaitait en finir avec les méthodes barbares, la nuit à son image.
Petite précision, Elena, cette loi, elle a tout de même mis longtemps à arriver.
Oui, le texte a été adopté en première lecture en 2011 et il a fallu 8 ans pour qu'il soit finalement promulgué parce que de puissants lobbies y faisaient obstruction, ceux des chasseurs, celui du cirque, les producteurs d'aliments animaliers aussi étaient contre. Les défenseurs des animaux ont donc finalement gagné ce bras de fer. Alors leur prochain objectif, c'est d'interdire les tests sur les animaux et l'élevage d'animaux à fourrure.
Merci Elena pour toutes ces précisions. La protection des animaux en Russie, ça avance et c'est tant mieux. À très vite dans les carnets.
À bientôt.
Et à propos de protection des animaux, on avait envie de vous proposer une deuxième étape aujourd'hui dans les carnets du monde pour vous parler des baleines. D'ailleurs, après-demain, le 19 février, c'est la journée internationale de la baleine. On rejoint notre correspondant au Japon, Bernard Delattre. Bonjour Bernard.
Bonjour Sophie.
Je résume la situation particulière du Japon vis-à-vis de ces gros cétacés. Fin décembre dernier, le Japon a claqué la porte de la Commission baleinière internationale et annoncé qu'il allait reprendre la chasse à des fins commerciales. En fait, c'est la fin d'une hypocrisie parce que jusqu'ici, en tant que membre de cette commission, le Japon était officiellement tenu par un moratoire interdisant la pêche, et ça depuis 1986. Mais en fait, il contournait l'interdiction et chassait quand même sous couvert de recherches scientifiques, ce qui ne trompait personne vu le peu de publications scientifiques issues de ces recherches. On considère quand même que le Japon a pêché 15 000 cétacés ces 30 dernières années, ce sont les chiffres des scientifiques. Au moins maintenant, il assume, le Japon, qui dit chasse, ce sera à partir du 1er juillet, dit vente de la viande de baleine. Bernard, comment est-ce que le gouvernement justifie cette décision aujourd'hui ?
Il invoque notamment l'exception culturelle que représenterait cette pratique. Le poids de l'histoire joue aussi. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est la consommation de viande de baleine qui a permis à beaucoup de Japonais de faire face à la disette que connaissait le pays. Ce discours identitaire, on le retrouve par exemple dans la bouche de ce retraité à qui j'ai tendu le micro.
Le gouvernement a raison de pousser les Japonais à manger plus de baleines. Les experts ici assurent que la majorité des cétacés ne sont plus menacés de disparition. Dès lors, pourquoi devrait-on continuer à les protéger ? D'accord, ce sont de beaux animaux, mais les laisser proliférer finira par nuire à l'équilibre de la biodiversité marine. En plus, au Japon, la chasse à la baleine est une tradition séculaire. C'est bien de préserver cette exception culturelle et de la transmettre à nos enfants. Prenez l'uniformisation des habitudes alimentaires de par le monde en dénigrant cette spécificité nippone, c'est vraiment anti-japonais.
Voilà, beaucoup d'affirmations jugées sans fondement par d'autres experts, et c'est pas moi qui trancherai. Mais ces arguments, Bernard, ils font l'unanimité au Japon ?
53% des Japonais approuvent la décision du gouvernement, une courte majorité donc. Ouais. Mais seul 1 sur 3 dit qu'il mangera de la baleine dès juillet. D'ailleurs, des ONG pro-chasse à la baleine et des coopératives de pêcheurs sont parties en campagne. Figurez-vous qu'ils font le tour des écoles élémentaires pour expliquer aux enfants combien la viande de cétacés, c'est délicieux et c'est bon pour la santé. Puis à la cantine scolaire, à midi, on sert de la baleine aux mômes.
Ouais, parce qu'au fond, les Japonais en consomment finalement assez peu de la viande de baleine.
Moins de 5000 tonnes par an, soit 40 grammes par habitant. C'est 40 fois moins que dans les années 60. En plus, figurez-vous qu'ici, 3000 tonnes de viande de baleine invendue sont stockées dans les congélateurs, faute d'amateurs.
3000 tonnes de viande stockée, mais à quoi ça rime du coup de reprendre la chasse pour commercialiser cette viande si si peu de Japonais veulent en manger ?
Le principal port baleinier du pays se trouve dans la circonscription du Premier ministre Shinzo Abe. Des élections sont prévues ici cet été. Donc il veut flatter l'électorat nationaliste et conservateur. Les personnes âgées aussi, vu que ce sont elles surtout qui consomment de la baleine. Les jeunes Japonais, eux, lorsqu'ils mangent de la viande, préfèrent les burgers.
Ouais, tout ça semble assez absurde, hein. Mais en tout cas, cette décision du Japon a une conséquence pas si mauvaise. Désormais, il pourra chasser la baleine uniquement dans ses propres eaux territoriales et plus dans le sanctuaire des cétacés du côté du pôle sud.
Voilà. Bernard, merci beaucoup pour ces explications. À une prochaine fois dans les carnets.
Merci à vous, Sophie. À très bientôt.
Europe 1, les carnets du monde.
13h51, c'est l'heure de retrouver Joseph Chovanec qui, chaque dimanche, nous emmène en Autistan, Sophie Larmoyer.
Joseph Chovanec, philosophe et autiste Asperger, c'est le grand voyageur de l'équipe, toujours en vadrouille, et pourtant, il ne rate aucun de nos rendez-vous. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Au gré de vos voyages, vous observez nos différences, et notamment notre rapport au travail, nos rythmes de travail.
Oui Sophie, à la radio c'est facile, nous travaillons tout le temps, et en autiste pareil, là, des cauchemars classiques de mes amis autistes, ce sont les vacances, les pauses, comment voulez-vous gérer tout ça ? Quand on voyage, on se rend compte que les rythmes de travail sont extrêmement variables, avec tous les clichés qui vont avec. Dans ma petite perspective, à moi, le rythme de travail au Sultanat d'Oman est particulièrement détendu, on va le dire comme ça. Sauf que début janvier, j'avais mentionné à mon prof omanais d'arabe le Soudan, un pays que j'aime beaucoup. Et mon prof de murmurer immédiatement « Oum Koussala, ce sont des paresseux ».
Ah, les idées reçues sur les uns ou les autres.
Oui, il y a beaucoup d'idées reçues, mais il y a quand même des éléments objectifs.
Un petit fond de vrai, quelquefois.
Voilà, la longueur du week-end, le fait qu'il soit respecté ou pas, ce sont des paramètres observables. Il y a des pays où la différence entre le week-end et le reste de la semaine est quasiment inexistante. Mm. En Nouvelle-Zélande, par exemple, lorsque j'habitais là-bas, j'avais exactement la même routine autistique tous les jours, week-end ou pas, parce que les magasins étaient ouverts aux mêmes horaires. Et dans beaucoup de pays musulmans, assez curieusement, il en va de même. Iran, Oman, Égypte, que sais-je, week-end ou pas, les boutiques sont ouvertes. Mm-hmm. La seule vraie pause intervient le vendredi matin, avant, pendant la prière. Ouais. Les rues se vident, le silence se fait, même dans l'immensité de Téhéran qui est perpétuellement embouteillée.
Alors, il y a les règles, ce qui doit se faire, et puis il y a la réalité souvent qui est assez différente.
Voilà les trucs et astuces qu'on invente dans chaque pays ou presque pour insérer des pauses dans l'agenda. Le cas le plus saisissant pour moi, c'est le cas iranien. Mm-hmm. Alors certes, le week-end officiel iranien ne dure qu'un jour et c'est plus ou moins bien respecté. Mais le calendrier religieux chiite prévoit d'innombrables fêtes et autres jours fériés. J'en avais beaucoup profité lorsque j'étais étudiant en Iran. En certaines semaines, les fêtes étaient tellement nombreuses que tout ça fusionnait et je pouvais me balader à travers le pays.
On dirait que vous parlez d'un mois de mai en France.
Voilà, 12 fois par an. Hein, mais inutile d'aller aussi loin pour constater des phénomènes amusants de ce type. Lorsque j'étais étudiant à Mannheim, en Allemagne, j'avais pu observer que les gens faisaient des stratégies d'optimisation. Mais oui, la ville de Mannheim est située dans le land de Bade-Württemberg. Mais juste en face, de l'autre côté du Rhin, il y a le Palatinat. La différence est de taille. En traversant le fleuve, on passe d'un territoire catholique à un territoire protestant. Ah. Alors, très concrètement, chez les catholiques, il y a plus de jours fériés, mais aussi en contrepartie, plus de jours où la ville est morte. Donc les plus malins travaillent chez les catholiques et vivent chez les protestants. Je plains ceux qui font l'inverse.
Bon, puis il y a les endroits où on s'arrête quasi jamais aussi.
Voilà, en extrêmement par exemple, la ville de Singapour, la ville-état où la vitesse de marche des piétons est la plus élevée au monde.
C'est un signe.
Un signe 6,15 km par heure. Hein, et le rythme de travail est en proportion, évidemment. Mmh. Et ce n'est pas un cliché. Hein. Je me souviendrai toute ma vie d'une scène vécue dans un hôtel à Singapour. J'avais réservé, bien entendu, la chambre la moins chère. Mais j'avais été, comme on dit, upgradé dans un hôtel de Singapour. J'avais réservé évidemment la chambre la moins chère, mais j'ai été upgradé à l'étage dit exécutif, avec les hommes d'affaires. Ça me donnait un accès illimité à la nourriture. J'en ai bien profité, naturellement. Dans le salon, il y avait un cadre en costume cravate qui travaillait comme un forcené. Deux ordinateurs devant lui, tapant frénétiquement du texte, une main sur chaque clavier, et juste devant sa bouche, il y avait une espèce de sandwich. Mais il n'osait pas mordre dedans, peut-être pour ne pas ralentir son flux de travail. Et le lendemain matin, il était encore là, à la même place. J'ignore s'il est allé dormir entre-temps.
J'espère pour lui, le pauvre. La vraie tendance quand même aujourd'hui, Joseph, ce serait plutôt de travailler moins mais mieux. C'est une belle philosophie, non ?
Tout à fait.
Bon. Merci, à dimanche prochain, Joseph.
À très bientôt.
Europe 1.
C'est l'heure de refermer les carnets du monde. Merci de nous avoir accompagnés. Cette émission, ces reportages peuvent être réécoutés grâce au podcast. Vous le trouverez sur europe1.fr. Un grand merci à Sophie Mallier, réalisatrice des carnets, à Florence Gimalac qui m'aide à les préparer. Et on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles aventures à 13h sans faute. D'ici là, portez-vous bien.
Et oui, à dimanche prochain, Sophie Larmoyer. Dans un instant, Christophe Ondelat nous racontera les dessous d'une opération montée par la DGSE en 1983 pour venger la mort de 58 parachutistes français dans l'attentat du Drakkar à Beyrouth au Liban. Ondelat raconte, qui je le rappelle, a été récompensé récemment lors des 24e cérémonies des lauriers de l'audiovisuel. Il a reçu le prix du programme radio pour son émission. Ondelat raconte, ce sera donc juste après les infos. Restez avec nous.